Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descola.
Lors de la leçon précédente, j'avais continué à explorer une mutation dans la figuration d'anthologie naturaliste au XVIIe siècle, celle qui devient visible dans la peinture hollandaise. Parallèlement, en effet, à un engouement pour l'observation et pour la description des objets du monde, dans toute leur diversité, la peinture de genre, à cette époque, met en évidence que l'intériorité distinctive des humains a commencé à devenir indécise, que l'âme n'est qu'une émanation des propriétés des actions, et peut-être même des choses, dont les individus ne sont en quelque sorte que des réverbérations, tout comme les fruits d'une nature morte réverbèrent, reflètent une lumière diffuse dont la source est insaisissable. La peinture hollandaise de l'âge d'or offre ainsi un bon exemple de cette tension dans l'histoire de la figuration de l'ontologie naturaliste qui voit peu à peu prévaloir les exigences d'exactitude descriptive sur la narration et sur la narration d'une histoire et sur l'édification morale. Mais j'avais aussi développé l'idée que c'est au siècle suivant et autour de la figuration du corps humain que le souci de la fidélité aux choses mêmes finira par l'emporter sur le respect des contraintes imposées simultanément par la tradition religieuse et par l'idéal esthétique de Lut pictura poesis. Un bref survol du rôle qu'a joué l'anatomie dans les beaux-arts de la fin du XVIIe siècle au début du XIXe siècle nous a en effet montré que l'émancipation progressive vis-à-vis du canon de l'esthétique du corps humain à l'antique aboutit non seulement à un souci d'exactitude mimétique dans la description des corps réels, mais aussi, peut-être surtout, à une sorte d'équivalent figuratif du doute méthodique par lequel, grâce à l'expérience de la dissection, l'artiste se déprend des schèmes visuels transmis par la tradition en recomposant des corps complets à partir de leurs composantes élémentaires. Et c'est une étape nouvelle dans la figuration d'ontologie naturaliste que je voudrais aborder aujourd'hui en examinant les mutations dans l'imagerie scientifique entre le XVIIIe et le XIXe siècle. L'objectivité, tout particulièrement l'objectivité scientifique, a une histoire. Et c'est une histoire d'image pour l'essentiel. L'objectivité consiste en effet à produire une connaissance qui soit totalement indemne d'un sujet connaissant, donc dépourvu de préjugés, d'interprétations, d'inférences, le résultat, en somme, d'une vision d'où toute subjectivité a été balayée. Cette ambition, dans toute sa plénitude, s'est manifestée assez tardivement, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, en Europe et en Amérique du Nord, et l'on peut examiner la façon dont cela s'est produit en regardant les images scientifiques, notamment celles des atlas. Alors, je vais faire référence à plusieurs reprises dans la leçon d'aujourd'hui, un travail qui a été mené par deux historiens des sciences américains, Lauren Daston, qui est chercheur à Berlin maintenant, et Peter Galison, un ouvrage qui s'appelle Objectivity, qui est une histoire justement des atlas. En effet, les atlas sont depuis très longtemps un outil absolument fondamental de la description et de l'étude scientifique de la nature, dans la mesure où il pourvoit un objet d'étude standardisé permettant les généralisations et les comparaisons, ce qu'un phénomène brut, si par hasard une telle chose existe, n'autorise pas. Les images des atlas ont ainsi une fonction régulatrice. Ils assurent non seulement que les chercheurs travaillent finalement sur des objets identiques, et il l'assure par la compilation de représentations typiques qu'ils réunissent, mais en même temps ils éduquent le regard des scientifiques en leur apprenant à distinguer certaines sortes d'objets comme étant exemplaires d'une classe. C'est particulièrement net, évidemment, dans les atlas anatomiques, qui sont parmi les plus anciens. Un organe humain quelconque peut avoir des apparences très diverses selon les sujets, surtout si l'on prend en compte les maladies qui peuvent l'affecter. De sorte qu'il est indispensable de disposer d'un modèle normalisé en images par rapport auquel juger des variations de ces organes, notamment des variations pathologiques. Dans un atlas, donc, les images ne sont pas secondaires, ce ne sont pas des illustrations, comme on a coutume de les appeler, qui viendraient en surplus du texte. Au contraire, les images sont des étalons, elles sont centrales dans l'atlas, ce sont des étalons au moyen desquels on va identifier les objets sur lesquels la science travaille, que ce soit des fleurs, des bactéries, des cristaux, des cratères de la Lune, etc. Alors, le terme atlas, il vient du planisphère de Mercator de 1595, mais il s'est rapidement étendu à d'autres objets dont on publiait des images, de sorte qu'au XIXe siècle, il qualifie des recueils d'images standardisées dans à peu près toutes les sciences empiriques. Les atlas sont souvent des œuvres individuelles, dont les auteurs tirent gloire, mais ce sont par ailleurs des entreprises éminemment collectives qui sont fondées sur de multiples collaborations. Je reviendrai évidemment sur le rôle très important que jouent les illustrateurs dans l'atlas, et qui sont destinées en principe à durer longtemps. Certains ont une validité, une durée de vie de presque un siècle. Et qui sont en outre largement diffusés dans une communauté scientifique. Selon la formule très juste de Daston et Galison, les atlas sont une manifestation exemplaire d'empirisme collectif. Or, la thèse des deux auteurs est qu'il y aurait eu trois étapes dans la conquête de l'objectivité qui sont finalement autant de façons différentes de concevoir et de produire des images de la nature. La première étape, où domine un régime de fidélité à la nature, vise au fond à figurer le type sous-jacent d'un objet. Très souvent, une espèce animale ou une espèce végétale, en mettant en évidence les caractéristiques synthétiques de cet objet, indépendamment de la variété que peuvent présenter les spécimens. C'est une attitude typique du XVIIIe siècle, qui prend ses sources dans le siècle précédent et qui se prolonge bien avant dans le XIXe siècle. La deuxième étape est caractéristique de l'objectivité mécanique et elle est évidemment très liée à l'avènement de la photographie. Il s'agit de figurer un spécimen ou un phénomène singulier avec toutes ses particularités, avec toutes ses idiosyncrasies, en réduisant au minimum l'intervention humaine et la part que peut prendre la subjectivité de l'observateur. Donc c'est une figuration de type automatique, enfin qui se veut, qui se voudrait automatique, et qui commence à prendre de l'ampleur à partir des années 1850. La dernière étape, enfin, que Daston et Galison appellent le jugement expert, trained judgment, est un abandon de l'objectivité mécanique au profit d'une sorte d'objectivité aménagée, dans laquelle l'abondance des détails inutiles, engendrée par des modes d'enregistrement automatisé est éliminé de façon à sélectionner dans l'image les seules propriétés pertinentes que l'observateur souhaite étudier ou qu'il souhaite mettre en évidence. Et ça, c'est un mouvement qui commence à se développer à partir des premières décennies du XXe siècle. Alors, il faut s'attarder un moment sur ce que l'objectivité signifie dans un tel cadre, ce qui me permettra de préciser pourquoi je vois l'histoire de la figuration naturaliste comme une histoire de l'objectivation, je l'ai déjà dit dans des leçons précédentes, qui débute au fond avec l'art descriptif flamand puis hollandais, mais qui s'échappe ensuite progressivement des déterminations propres aux beaux-arts pour trouver sa voie plutôt dans les images scientifiques. Alors, un mot d'abord sur le terme même d'objectivité qui permettra de mieux comprendre pourquoi la notion surgit comme une ambition scientifique si tardivement. La première chose importante à retenir est que le couple objectivus-subjectivus, objectif-subjectif, qui a été forgé par les philosophes scolastiques au XIVe siècle, a signifié à peu près exactement l'inverse de ce qu'il signifie à présent, jusque dans les premières années du XIXe siècle. Objectif se référait aux choses qui se présentent à la conscience, tandis que subjectif faisait référence aux choses en soi. On disait d'une chose qu'elle était objective lorsqu'elle existait exclusivement comme un objet de connaissance clair et distinct, c'est un usage que l'on retrouve chez Descartes, dans les méditations par exemple, et Kant fait subir un premier infléchissement à ce couple terminologique lorsqu'il applique la notion de validité objective, non pas aux objets externes, mais aux formes de la sensibilité, le temps, l'espace, la causalité, en tant que celles-ci sont des préconditions d'expérience. Tandis qu'il emploie subjectif comme un synonyme des sensations purement empiriques. Et c'est la réappropriation de la philosophie kantienne en Europe, en Allemagne bien sûr, par Fichte et Schelling et par Victor Cousin en France, qui va donner au couple objectif-subjectif sa signification définitive. On la trouve fixée assez tôt, par exemple, un dictionnaire allemand donne en 1820 le sens déjà moderne. Objective se réfère à la relation à un objet externe, tandis que subjective est définie comme personnel, intérieur, qui nous est inhérent par opposition à objectif. Autrement dit, et quoi qu'avec des sens évidemment différents, même inversés, dès l'origine, l'objectivité est couplée avec la subjectivité. Il ne peut y avoir d'objectivité que par un effacement de la subjectivité, et il ne peut y avoir d'objectivation véritable que si l'on réduit autant que faire se peut la part du sujet objectivant. Et c'est en ce sens que l'objectivité est une étape tardive dans l'histoire des sciences. Non seulement le terme qu'il exprime est récent dans son sens moderne, il n'y a pas plus de 2 siècles, mais la préoccupation elle-même n'apparaît que dans les années 1850, lorsque les savants s'inquiètent devant le risque que leur subjectivité fait courir à la connaissance. En effet, tandis que les auteurs des atlas du siècle précédent, du XVIe, du XVIIe et du XVIIIe, ont pour objet et pour finalité de sélectionner la plante, le cristal, le squelette, l'organe le plus typique pour l'enrichir par ses caractéristiques les plus complètes, afin que l'image de cet exemplaire puisse figurer l'archétype d'une classe, les savants du siècle suivant mettent l'accent sur l'importance de développer des techniques de représentation qui laissent le moins de place possible à la subjectivité. Il en résulte évidemment un intéressant contraste avec les images artistiques. À l'époque, en effet, donc on est au milieu du XIXe siècle, c'est-à-dire, au fond, avant que l'impressionnisme ne rende acceptable, au moins pour certains, l'idée que ce que l'artiste restitue, ce n'est pas tant sa vision subjective des choses que l'empreinte que les choses laissent en lui, on apprécie grandement, au contraire, à cette époque, parmi les connaisseurs, la façon dont certains artistes savent exprimer leur personnalité dans leur art. Ainsi, Henry James, par exemple, témoigne-t-il de son admiration pour un peintre orientaliste à présent un peu oublié, Alexandre Gabriel Descamps, en observant, et je cite Henry James, qu'il peignait non pas la chose regardée, mais la chose remémorée, imaginée, désirée, à un degré ou à un autre, intellectualisée. C'est dans The Painter's Eye de 1873. Au moment où les chercheurs visent à éliminer l'intériorité dans l'appréhension des objets et des phénomènes, grâce à l'image scientifique, c'est par contraste l'intériorité des artistes, à tout le moins, encore une fois, jusqu'à l'impressionnisme, qui est appréciée dans les images subjectives qu'ils produisent. Alors reprenons à présent chacune de ces, en tout cas des deux premières étapes dans l'histoire de l'objectivation. La fidélité à la nature, qui s'exprime dans les atlas du XVIIIe et du début du XIXe siècle, est fondée sur le principe que ce que l'image figure, ou ce qu'elle devrait figurer, n'est pas le spécimen servant de modèle, mais un exemplaire idéalisé, amélioré et, à tout le moins, caractéristique d'une espèce ou d'un objet naturel. À cette fin, les savants vont sélectionner soigneusement leur modèle et ils donnent des instructions extrêmement précises aux artistes qui les reproduisent, de façon à ce que les variations soient effacées et que leurs images, compensées ou raisonnées, corrigent, au fond, les imperfections de la nature. Il s'agit donc d'un réalisme idéalisé dans lequel on s'efforce au premier chef de rendre visibles des types et des régularités contre un autre naturalisme qui serait le naturalisme de l'objet singulier avec ses imperfections et avec ses idiosyncrasies. Et les atlas ont joué un rôle évidemment fondamental dans ce processus de normalisation et de diffusion de types standardisés dans la communauté savante, surtout lorsqu'il s'agit d'objets naturels rarement observables ou difficilement observables, notamment ceux découverts lors des grands voyages d'exploration de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Ces images d'espèces exotiques étaient souvent plus réalistes et plus scientifiquement exploitables que les spécimens que l'on ramenait aussi de ces voyages d'exploration, mais qui étaient souvent imparfaitement conservés, et que seule, en outre, une toute petite poignée d'institutions en Europe étaient en mesure d'accumuler et de conserver. Donc on ne pouvait pas les observer facilement. Par exemple, lorsque François Perron a publié entre 1807 et 1816 ses voyages de découverte aux terres australes, les images d'oiseaux non volants que l'Atlas comportait ont permis de combattre le scepticisme des naturalistes européens quant à l'existence de ces espèces auparavant inconnues. Donc vous avez ici ce qu'il appelle des casoirs, qui en fait sont des émeus, donc une petite erreur de définition. Mais l'image est intéressante parce qu'elle montre là un couple et des petits dans une situation qui est rarement visible. Donc on voit bien que c'est une reconstruction, mais qui permet de rendre visibles tous les traits typiques de l'espèce. Il en va de même pour les organes pathologiques. Tandis qu'un organe sain est facile à observer, certaines pathologies sont très rares, et un médecin peut n'avoir jamais eu l'occasion d'observer certaines de ces pathologies, donc de les reconnaître, si des images ne fixent pas leurs caractéristiques. Cette volonté de standardiser les objets naturels en images constitue une rupture par rapport à la pratique du XVIIe siècle, qui était, elle, inspirée par Bacon et qui consistait, au fond, à décrire plutôt la normale et le particulier. La peinture descriptive hollandaise, on l'a vu la semaine dernière, était aussi très marquée par cet impératif baconien de décrire la surface des choses dans toute sa variété, dans toute sa complexité. Mais les naturalistes du XVIe et du XVIIe siècle avaient poussé cette tendance plus loin. En réaction contre les généralisations abstraites des scolastiques, il s'agissait au fond de promouvoir l'observation de ce que Bacon appelait, je le cite, « les objets étranges et monstrueux dans lesquels la nature dévie de son cours ordinaire ». D'où une obsession dans les sociétés savantes pour les rapports sur les anomalies, sur les monstres, les choses étranges qui sortaient de l'ordinaire. Désormais, on s'intéressait au XVIIe siècle beaucoup plus aux anomalies qu'à la normalité. Mais dès le début du XVIIIe siècle, alors c'est très net quand on voit ce qui reste dans certains musées anciens d'histoire naturelle de cette époque, ces collections en effet de veaux à deux têtes et de choses comme ça. Je me souviens d'avoir visité un musée d'histoire naturelle aux Açores, dans la capitale des Açores, qui est conservée telle quelle depuis le XVIIe siècle en effet, qui était à peu près exclusivement remplie de monstres et d'anomalies de ce type-là. Mais dès le début du XVIIIe siècle, les naturalistes se sont au contraire plutôt tournés vers la quête des régularités derrière le chatoiement des particularismes. Désormais, donc, on s'intéressait moins à décrire les exceptions de la nature qu'à mettre en évidence ces règles, donc, au fond, à définir des types par rapport auxquels mesurer des variations. Or, un type, c'est une construction intellectuelle qui n'est jamais présente dans un individu particulier sous une forme parfaite. Et le type lui-même peut être envisagé de deux façons, soit comme une image idéale, soit comme une image caractéristique. Chacune de ces variantes étant fondée sur des principes différents. Une image idéale, c'est une image qui a été idéalisée. Une bonne illustration en est fournie par les images anatomiques que j'avais déjà montrées lors de la leçon précédente de Bernard Siegfried Albinus. Je vous remonte celle que j'avais présentée. J'avais dit que Albinus, tout comme Jacques-Fabien Gauthier d'Agoty, avait contribué à introduire l'anatomie dans la vie quotidienne, notamment en retirant tout effet dramatique aux images de squelettes et d'écorchés, en les rendant aimables et quotidiens, en quelque sorte. Mais Albinus était aussi réputé pour la stylisation de ses squelettes. Comme il l'écrit dans la préface de ses « Tables du squelette et des muscles du corps humain » de 1747, il s'efforce à la fois de respecter les plus hautes exigences de fidélité visuelle au modèle et de créer des images qui reflètent les meilleures formes naturelles. Et à cette fin, il juxtaposait le squelette qu'il avait patiemment décomposé puis réassemblé à un homme nu, très maigre, de façon à vérifier la position exacte des articulations par comparaison. Et en outre, il édifiait un double treillage entre l'artiste, c'est pas lui-même qui dessinait, et le modèle, pour que l'artiste puisse carroyer de la façon la plus exacte possible. Et pourtant, malgré toutes ces mesures objectivantes, Albinus transforme l'image pour qu'elle corresponde au mieux à un modèle idéal. Je le cite. Aussi, les parties qui n'étaient pas tout à fait parfaites furent réparées dans l'image et furent exécutées de telle façon qu'elles soient tout à fait justes. En dépit de la contradiction apparente, parfait et juste se répondent dans l'esprit d'Albinus. L'universel, en l'occurrence le squelette parfait, ne pouvait être connu que par l'expérience d'une grande quantité de squelettes particuliers, mais aucune image d'un squelette particulier ne serait à même de restituer l'idéal. C'était donc toujours une composition. Alors, certains naturalistes avaient choisi de figurer la singularité et non le type idéal. Ils sont peu nombreux. C'est le cas de l'anatomiste anglais William Hunter, qui publie en 1774 un atlas de l'anatomie de l'utérus gravide, dans lequel il présente 34 vues de 13 sujets différents, disséqués à différents stades de leur grossesse. Et il présente une sorte d'évaluation des avantages et des inconvénients du procédé, en concédant que le type idéal composé à partir d'un grand nombre de spécimens, donc tel que le faisaient la plupart des naturalistes à l'époque, peut être plus exact, mais que l'image de la singularité est plus vraie. Cela dit, Hunter n'élimine pas complètement les considérations esthétiques, bien au contraire. En outre, ces préparations étaient soigneusement, ces spécimens étaient soigneusement aménagés, préparés, avec des injections de cire, avec des teintures pour renforcer les couleurs, pour maintenir les vaisseaux dilatés, de sorte que la recherche de la singularité, dans le cas présent, ne s'accompagne aucunement d'un désir d'éliminer la subjectivité du point de vue de l'observateur. Il en va de même des ornithologues. Je pense en particulier à George Edwards, un ornithologue qui promet dans son atlas « The Natural History of Uncommon Birds » de 1743-1751 des images scrupuleusement fidèles, mais qui les dispose en autant, et ça c'est dans sa préface, en autant de contenance et d'attitude que je pourrais inventer. Il en va de même pour le célèbre Dubon, dont l'Atlas des oiseaux d'Amérique, bien connu, se veut parfaitement fidèle à la nature, mais qui ne recule pas devant des compositions un peu maniérées du type de celle-ci, qui présente la mésange bicolore. Revenons à la question de l'image typique. Non plus comme une image idéale ou canonique, mais comme image caractéristique. Une image caractéristique, c'est une image d'un objet singulier, mais qui prend valeur de type pour toute une classe d'objets. Les attelages de pathologie sont les plus représentatifs de cette approche, car le type idéal ne correspond pas ici à une image de perfection, évidemment, ni même à une image de grande régularité. C'est le cas, par exemple, de l'atlas d'anatomie pathologique du corps humain de Cruveillier de 1829-1842. Voilà ici des illustrations pour des maladies du cerveau. Cela dit, ce genre d'atlas présente des cas individuels comme exemplaires et comme illustratifs de catégories plus larges de pathologies. De sorte que, comme l'écrit un autre pathologiste, Bénédicte Auguste Morel, je le cite, « des causes constantes tendent à créer des types d'une forme déterminée, en sorte que des pathologies peuvent avoir une forme aussi, et c'est toujours Morel qui s'exprime, aussi distinctive, fixée et invariable que des types normaux. » Il n'est pas inutile à cette étape de s'attarder un moment sur la réalisation technique des images. En effet, l'idéal de fidélité à la nature par la figuration d'un type, c'est l'objectif que se fixe le naturaliste lorsqu'il synthétise ses très nombreuses observations dans un modèle idéal. Mais ce modèle, ce n'est pas lui qui va lui donner corps, c'est le dessinateur et ce sont les graveurs qui travaillent sous ses ordres. Et ceci, et on le sait par les correspondances et par les croquis annotés qui faisaient le va-et-vient entre le naturaliste et l'illustrateur, ceci était soumis à un contrôle tatillon par les naturalistes qui corrigeaient sans cesse leurs dessins préparatoires jusqu'à ce que ces dessins parviennent au modèle idéal que les naturalistes avaient à l'esprit. Donc ils guidaient la main à tout moment, à toutes les étapes de la production de l'image jusqu'à la fin. Autrement dit, à quelques très rares exceptions près, des exceptions où les naturalistes étaient aussi des dessinateurs experts, comme Conrad Gessner ou comme Charles Plumier, et à quelques plus rares exceptions encore, celles qui caractérisent la situation inverse, dans laquelle les dessinateurs finissaient par acquérir le statut de naturaliste, je pense ici à Pierre-Joseph Redouté, un botaniste, les artistes étaient des sortes d'appareils d'enregistrement. Non pas des appareils d'enregistrement de spécimens naturels, bien qu'ils dessinaient assez souvent d'après nature ou d'après des spécimens, mais en fait d'enregistrement, par toute une sorte de correction successive, des modèles idéaux que les naturalistes voulaient leur faire reproduire. Et le phénomène est intéressant du point de vue d'une histoire de l'objectivation en image, puisque, au fond, la subjectivité qui gouverne la production d'un type naturel n'est pas ici celle de l'artiste, c'est celle du savant qui l'emploie. Et l'objectivité automatique qui est devenue la norme ou l'idéal de la description dans la deuxième moitié du XIXe siècle a ainsi une sorte de précédent dans la façon dont on enjoignait aux artistes d'enregistrer de façon automatique, peut-on dire, ou par série de corrections, mais de la façon la plus fidèle possible, en tout cas, les types idéaux proposés par les naturalistes. Examinons à présent les caractéristiques de l'objectivité mécanique. Elle repose, je l'ai dit, sur le désir d'éliminer la subjectivité, voire toute intervention intentionnelle de l'observateur et de remplacer la subjectivité de l'observateur par un ensemble de procédures permettant de transporter la nature dans les pages d'un atlas grâce à un protocole strictement défini. Dépeindre des objets individuels objectivement exigeait non seulement un usage spécifique des techniques de l'image, certaines anciennes comme la lithographie, d'autres plus récentes comme la photomicrographie, elle supposait aussi une attitude très différente de la part des chercheurs, s'imposant de réduire au minimum la part d'interprétation des phénomènes qu'ils décrivent. Avant que ne se développe des dispositifs d'enregistrement vraiment automatiques, les savants travaillaient avec des experts, notamment en microphotographie, mais leur relation, d'une certaine façon, était inverse de celle qui prévalait avant. Tandis que les naturalistes du XVIIIe siècle imposaient aux artistes de reproduire exactement ce qu'ils souhaitaient rendre visible, les scientifiques de la deuxième moitié du XIXe siècle comptaient au contraire sur les techniciens de l'image pour canaliser et restreindre leur propre imagination, l'imagination des scientifiques, grâce à l'expertise technique dont ils faisaient preuve et qu'ils mettaient en branle dans les techniques qu'ils employaient. Alors la photographie a évidemment joué un rôle très important dans l'émergence de l'objectivité mécanique, car les savants se rendent compte très tôt des possibilités qu'elle offre. Par exemple, en 1839, le botaniste Jean-François Turpin, qui vient de visiter l'atelier de Daguerre, fait valoir à ses collègues de l'Académie des sciences la différence entre le daguerréotype et le dessin, en disant que le daguerréotype, je le cite, appartient presque entièrement à la nature. Appartient presque entièrement à la nature, c'est une remarque qui vient, d'une certaine façon, comme un prolongement de celle que j'avais rapportée dans une leçon précédente d'un contemporain de Peter Bruegel, disant que ses peintures étaient moins des œuvres d'art que des œuvres de la nature. L'idéal de l'empreinte, de la trace, de la restitution des choses mêmes qui animent la peinture hollandaise se voit d'une certaine façon réalisé aux yeux des scientifiques dans la photographie. Le grand physicien et astronome François Arago ne laisse planer aucun doute à ce propos. Pour mieux se rendre compte de la façon dont la technique fonctionne, Arago, spécialiste de la lumière donc, participe avec Daguerre à la fabrication d'une vue du boulevard du Temple depuis la fenêtre d'un immeuble. C'est une des images les plus connues de l'histoire de la photographie qui a été maintes fois commentée. Et ce qu'il importe de noter ici, c'est la réaction d'Arago. La très haute précision, la haute définition, on dirait maintenant, de l'image le laisse admiratif. Elle permet de voir, grâce à une loupe, des détails que la vue naturelle n'enregistre pas, comme par exemple les tiges des paratonnerres sur le toit des immeubles. Pourtant, l'image ne montre pas tout. Du fait de la durée d'exposition, qui est supérieure à 10 minutes, tout ce qui est mobile a disparu, à commencer par l'intense trafic de piétons et de voitures attelées sur le boulevard, qui est bizarrement vide. Seul demeure un homme que l'on voit dans le coin en bas à gauche, dont on pense qu'il est en train de se faire cirer les bottes. C'est une opération qui, on peut le supposer, a duré assez longtemps, au moins 10 minutes, l'on dit aussi que c'est le premier portrait d'un humain dans une photographie, dans un daguerréotype. À vrai dire, Arago ne l'avait pas noté, et c'est Morse, l'inventeur du télégraphe, qui, visitant Arago, lui a signalé. Alors, évidemment, Arago remarque brièvement que seuls les objets immobiles ont donné naissance à une empreinte. Mais cela ne l'empêche pas, donc il a bien conscience que le trafic n'a pas été enregistré sur le boulevard. Mais cela ne l'empêche pas d'affirmer que, je le cite, « l'image et l'objet sont tout pareils ». L'image et l'objet sont tout pareils. Dans une communication à l'Académie des sciences, en janvier 1839, il affirme, je le cite, « dans la chambre noire de M. Daguerre, la lumière reproduit elle-même les formes et les proportions des objets extérieurs avec une précision presque mathématique ». Donc c'est le réalisme mimétique qu'Arago trouve admirable et un réalisme obtenu, au fond, sans le labeur de l'artiste. Du reste, le modèle de la peinture de genre hollandaise n'est jamais bien loin, avec son idéal d'une description complète de la surface des choses, comme si, au fond, la nature parlait d'elle-même. Ainsi, le rival anglais de Daguerre, William Henry Fox Talbot, a délibérément recherché dans un de ses calotypes intitulé « The Open Door », a évoqué un tableau hollandais du XVIIe siècle, et il suffit au fond de juxtaposer cette image, ce calotype, à un tableau de Hoogstraten, comme je l'ai fait, pour s'en convaincre. Alors, je ne sais pas si c'est ce tableau de Hoogstraten qui est au Louvre que Talbot avait à l'esprit. On en trouve d'autres dans la peinture de genre, mais l'inspiration générale est ici absolument évidente. D'ailleurs, des commentaires, des critiques contemporains du livre de Talbot. Talbot a publié un livre dans lequel ce calotype est reproduit, qui s'appelle, et le titre est merveilleux, Pencil of Nature, le crayon de la nature, donc l'idée de trace, d'un indice est ici évidemment profondément présent. Et ces critiques contemporains ont comparé favorablement le calotype de Talbot à des tableaux hollandais typiques de l'intimité domestique. Mais au moins autant que le réalisme, ce qui retient l'attention dans la photographie, c'est la possibilité de s'en servir comme d'un instrument d'investigation scientifique parce qu'elle produit des images libérées de l'interprétation humaine, donc supposées véritablement objectives. Alors, en quoi ces images sont-elles vraiment objectives ? En effet, tous les scientifiques de la deuxième moitié du XIXe siècle savent que les images peuvent être manipulées, qu'elles relèvent de l'artifice, qu'elles exigent une expertise technique, qu'il ne s'agit donc pas d'une simple impression naturelle, selon les termes que beaucoup d'entre eux emploient. La nature ne s'imprime pas toute seule sur des plaques réactives, il y faut beaucoup de travail et pas mal de manipulations. Et d'ailleurs, le développement de la photographie artistique, je rappelle que les premières photos artistiques ont été accueillies au salon de 1859, rend tout le monde conscient que les photographies peuvent être retouchées de façon extensive. Leur objectivité, dit-on alors, tient à ce qu'elles protègent les scientifiques des projections inconscientes de leurs préconceptions et de leurs théories, implicites ou explicites, sur les objets qu'ils étudient. Et une application exemplaire de l'objectivité mécanique que permet le traitement indiciel de l'image par la photographie, c'est l'étude des cristaux de neige. La description exhaustive, à volonté exhaustive des différents types de cristaux de neige, constitue une catégorie tout à fait spécialisée d'atlas. Or, depuis au moins la micrographia, de Robert Hooke de 1665, qui est peut-être le premier atlas spécifiquement consacré à la description des cristaux de neige, toutes les illustrations des cristaux de neige étaient caractérisées par la symétrie des cristaux. L'idée commune était qu'il s'agissait de formes géométriques parfaites, et lorsque par hasard des formes anormales étaient décrites et même parfois dessinées, celles-ci ne pouvaient être que des aberrations, sans grande importance. Et ceci dura jusqu'à ce que le météorologue berlinois Gustav Hellmann entreprenne avec un microphotographe très réputé, Richard Neuhaus, de photographier systématiquement les cristaux de neige en mettant au point d'ailleurs un dispositif assez complexe. Le résultat a été que nombre de ces cristaux n'avaient nullement la régularité et la symétrie de ceux des atlas précédents, comme l'un des plus connus qui était celui de Scoresby. Donc vous voyez ici une comparaison entre l'atlas de Scoresby, une page de l'atlas de Scoresby et des photographies de l'atlas de Hellmann. Et vous voyez bien que, autant les images de Scoresby sont toutes d'une parfaite symétrie, autant celles de Hellmann montrent des dissymétries et des imperfections. La tendance subjective à normaliser la description, à éliminer les variations pour mettre en évidence des types, avait ainsi abouti à une quasi-fiction, chez des observateurs pourtant scrupuleux. La tendance à idéaliser était encore plus nette lorsqu'il s'agissait de décrire des types physiques humains. Et c'est pourquoi les manuels de photographie scientifique recommandaient aux ethnographes d'utiliser des photos plutôt que des dessins dans la mesure où les conventions artistiques européennes pourraient aboutir à ce que le dessinateur déforme les corps non européens à la manière et les reproduise à la manière des corps européens. Comme l'écrit un Eugène Truta dans son livre « La photographie appliquée à l'histoire naturelle » de 1884, le dessinateur, donc il fait référence à une période passée, quel qu'ait pu être son talent par ailleurs, ne savait pas voir et il dessinait toujours des gens de race blanche qu'il colorait ensuite en noir ou en rouge. Cela dit, si la photographie est capable de description objective d'individus, est-elle en mesure de mettre en évidence des types humains ? C'est un débat qui a beaucoup agité l'anthropologie française dans la deuxième moitié du XIXe siècle et sur lequel il convient de s'attarder un moment. Dès les années 1850, l'anthropologie se dote en France, avec Broca, d'un programme théorique et méthodologique extrêmement conséquent. C'est l'étude des races humaines qui suppose de rechercher leurs caractères distinctifs et de les classer selon les critères de l'histoire naturelle. Il importe donc de constituer des collections de pièces anatomiques et de pièces physiologiques, mais aussi de dessins et de photographies, afin de disposer des spécimens témoins qui permettront la classification. Or, l'anthropologie, à l'époque, suit les préceptes de Claude Bernard, tels qu'il les a développés dans son introduction à la médecine expérimentale, dans lequel Claude Bernard distingue nettement entre, d'une part, l'observateur, qui constate passivement les faits, qui écoute la nature, je le cite, et écrit sous sa dictée, et, d'autre part, l'expérimentateur, qui, je le cite toujours, raisonne et se fonde sur les faits acquis pour en imaginer d'autres. À l'époque, donc, les anthropologues ne se déplacent pas. Ce sont des anthropologues de cabinet, comme on dit. Et ils confient à des observateurs, voyageurs, le soin de recueillir les matériaux documentaires, des faits bruts, en principe, dans lesquels puiser pour étudier la diversité des races et la diversité des coutumes. À cette fin, des instructions extrêmement précises sont rédigées afin que le recueil de données s'opère selon des principes méthodologiques uniformes. Il y en a énormément qui sont publiés à cette époque. D'une certaine façon, le manuel d'ethnographie de Mauss sera le dernier de cette longue série d'instructions réservées ou destinées aux observateurs par des anthropologues de cabinet. La photographie joue très tôt un rôle fondamental dans ces instructions quant à ce qui doit être précisément photographié et à la manière de le faire. Tout est spécifié dans les moindres détails. Ainsi, je cite ici les instructions générales pour les recherches anthropologiques de Broca de 1865. On reproduira par la photographie, premièrement, des têtes nues qui devront toujours, sans exception, être prises exactement de face ou exactement de profil. Deuxièmement, des portraits en pied pris exactement de face, le sujet debout, nu autant que possible, et les bras pendants de chaque côté du corps. On y joindra une indication permettant de retrouver la grandeur naturelle. La question de la mesure, en effet, devient de plus en plus centrale. En 1873, Émile Duhousset stipule qu'il est absolument indispensable de placer au coin de la planche photographique l'échelle comparative de chaque sujet. Et avec l'utilisation d'une échelle graduée, permettant la comparaison, se dessine la possibilité de prendre des mesures directement sur la photographie. Donc la représentation de la réalité par la photographie devient une sorte d'équivalent objectif du réel qui, dans l'esprit des anthropologues, permet d'effacer le sujet observateur avec les biais et les erreurs qu'il pourrait présenter, notamment dans les mensurations, qui deviennent ainsi parfaitement objectives. Comme l'écrit Gustave Le Bon en 1881, je le cite, « Je ne connais pas de mesure anthropométrique qui puisse donner autant de renseignements qu'une bonne photographie munie d'une échelle. » Vous voyez un exemple ici, tout à fait caractéristique. Donc le portrait, hein, souvenez-vous de ce que disait Broca, le portrait de face et de profil, et puis la vue en pied avec une toise qui permet les mensurations. Quelquefois, les toises sont fixées d'ailleurs en arrière-fond du portrait. Ça n'empêche pas certaines photographies de se départir de ce modèle, je pense en particulier à celle-là, où vous voyez une idéalisation qui n'a plus rien d'anthropométrique, puisque le modèle des trois grâces est évidemment ici le modèle esthétique qui a présidé à la photographie. C'est d'ailleurs fait à l'occasion d'une exposition coloniale et non pas in situ. À ceux d'entre vous qui pourraient être choqués par ce genre de photos, qui était très commune à l'époque, il faut rappeler que la photographie dans l'anthropologie physique est absolument généralisée et que la description des corps et de leurs caractéristiques s'applique absolument à tout le monde et à toutes les classes de la société. En témoigne cette photo que vous connaissez peut-être de Charcot, qui est le fils du neurologue du Charcot de l'hystérie de la Salpêtrière, et qui est l'explorateur de Arctique, hein, l'homme du pourquoi pas, qui, lorsqu'il était étudiant en médecine, n'hésitait pas à se faire photographier jouant au ballon. Il y a toute une série de photos photographiées par un chronophotographe, c'est donc qui décompose le mouvement de façon à mieux faire comprendre le mouvement. Donc il s'agit véritablement de quelque chose qui est assez généralisé. Cela dit, l'utilisation de la photographie comme substitut des mesures sur le vivant n'a pas été sans susciter des controverses dans le milieu anthropologique même. Paul Topinard est au premier rang de ceux qui, mettant l'accent sur la fonction représentationnelle de la photographie, cherchent à en contester l'apparente objectivité. Donc les critiques, en fait, se sont fait jour assez tôt, tout en doutant par ailleurs, je parle toujours de Topinard, de l'existence de types humains qui ne sont, d'après lui, au fond, que des constructions mentales difficilement saisissables par l'appareil photographique. Au demeurant, l'énorme corpus de photographies anthropologiques conservées et entreposées à l'époque au Muséum d'Histoire Naturelle et à la Société d'Anthropologie de Paris ont été relativement peu exploitées par les anthropologues de l'époque. Certes, à peu près tous les anthropologues du XIXe siècle saluent la supériorité de la photographie sur le dessin. Le dessin est encore, dit-on, de l'ordre de la représentation et véhicule, même inconsciemment, les biais culturels, idéologiques et même personnels de celui qui l'exécute. Tandis que la photographie, du fait de sa dimension mécanique, constituerait une reproduction fidèle de la réalité. Le dessin vise, dit-on, la ressemblance. La photographie vise l'authenticité, l'élimination de tout biais objectif. Et ce biais, d'une certaine façon, s'est prolongé, en faveur de la photographie, s'est prolongé jusqu'à aujourd'hui dans l'anthropologie sociale et culturelle. Permettez une petite anecdote. Lorsque m'a proposé, il y a bien longtemps, d'écrire un volume dans la collection Terre humaine, l'éditeur de la collection, Jean Mallory, m'a dit il faut mettre des photos. J'avais des photos, et ces livres de cette collection, dès le début, comportent un cahier de photographies en noir et blanc au milieu. Mais comme il me semblait que ces photos, d'abord, n'étaient pas de grande qualité et ensuite n'étaient pas très illustratives, disons, j'ai souhaité mettre aussi des dessins dans l'esprit, au fond, de la caractérisation, non pas de type, mais de situation typique, qui était celle de la fidélité à la nature du XVIIIe siècle. J'ai donc demandé à un illustrateur, à partir de documents que je lui ai fournis, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du rapport entre le naturaliste et l'illustrateur avec une certaine chaleur, parce que c'est un rapport assez intéressant, lui demandant de reproduire des situations que je lui décrivais très précisément avec des documents pour les faire. Et ça a paru extrêmement bizarre que dans les années 1980, 90 même, on refasse des dessins de ce type-là, tant l'illusion vériste de la photographie s'est au fil du temps imposée. Et pourtant, encore une fois, dès les dernières décennies du XIXe siècle, cette illusion vériste, en tout cas pour ce qui est de la typologie des types humains, était remise en question. Cet enthousiasme pour la photographie comme moyen d'engranger des données anthropologiques est souligné par certains comme étant une façon de découvrir des phénomènes jusque-là voilés qui, grâce à ce procédé, deviennent incontrovertibles. Mais ce n'est pas, au fond, sur cette conception positiviste que le débat va porter au XIXe siècle, mais sur le fait de savoir si des photographies peuvent donner accès, comme je l'ai dit, à des types humains. Les instructions pour les observateurs spécifient invariablement qu'ils doivent photographier les types les plus purs, c'est-à-dire les sujets les plus caractéristiques d'un type. Or, à partir des années 1880, la notion de type humain commence à être mise en doute. D'abord, on remet en cause le fait même que l'observateur photographe soit en mesure de comparer les types particuliers pour en distinguer les caractères communs et en extraire le type général qu'il lui faudra ensuite dénicher dans un individu pour le photographier. L'opération est tellement subjective, au fond, qu'elle abolit tous les avantages objectivistes de la photographie. C'est pourtant ce qui se passe avec la majorité des photos anthropométriques de l'époque. Le sujet photographié, comme on le voit ici, il est le plus souvent anonyme, car, par définition, dit-on, l'individualité est incompatible avec le type. Mais si la photographie anthropologique ou anthropométrique fait abstraction de l'individu, elle ne rend au fond que très imparfaitement compte du type. Et c'est là le deuxième type d'objection que les anthropologues portent à l'encontre de la photographie des types humains dès les années 1880. Comme l'écrit David Kaltbrunner dans son manuel du voyageur de 1887, je le cite, « Le véritable type étant un idéal, on ne trouve pas incarné dans un individu, par conséquent, il n'est pas question de le reproduire par la photographie. » Un point de vue que Paul Topinard exprime aussi avec une particulière vigueur dans son livre « L'homme dans la nature » de 1891, je le cite, « Ni le type ni la race ne sont des réalités objectives. Le type est l'image abstraite que nous nous faisons d'un ensemble de caractères exprimés à un certain degré dans un groupe idéal. Bref, ajoute-t-il, les types ne se touchent pas du doigt, ils ne se voient que par les yeux de l'esprit. » On peut toutefois envisager de faire correspondre un référent objectif à ce qui se voit ou à ce que voient les yeux de l'esprit. C'est ce qu'a tenté de faire Francis Galton en inventant un curieux dispositif. Galton était en effet persuadé que toutes les tentatives d'exploiter l'anthropométrie pour saisir les tendances d'un groupe d'individus seraient vouées à l'échec en l'absence d'un mécanisme d'abstraction standardisé. Et à cet effet, il inventa ce qu'il a appelé un synthétiseur physiognomique fonctionnant par superposition optique de visages appartenant à des groupes de criminels types. Le résultat étant des portraits composites dans lesquels aucun trait n'est identique à un individu en particulier, mais qui ressemble néanmoins à chacun d'entre eux. Voici une illustration. Donc vous voyez, tout en haut, ce sont des types singuliers, par exemple, et ce portrait-là est un composite de ces trois portraits singuliers, et si mes souvenirs sont bons, celui-là, oui aussi, 4, 5 et 6, voilà, celui-là est une composition, et puis vous pouvez en plus combiner et superposer par une sorte de procédé un peu rudimentaire de morphing des spécificités individuelles de façon à obtenir des types. Donc avec ce système d'objectivation automatique de type phrénologique, en fait une nouvelle étape a été franchie dans la réduction de l'intériorité à des paramètres physiques. Non seulement le tempérament, les dispositions, les aptitudes morales deviennent reconnaissables à partir des caractéristiques purement physiques que la physionomie est censée exprimer, mais encore la production même de cette image ou de cette image de certains types d'intériorité déviante, imprimée sur les traits du visage, est elle-même obtenue en mettant entre parenthèses l'intériorité de l'expérimentateur grâce à un dispositif d'amalgamation automatisé. Alors, il reste encore, bien sûr, à franchir une dernière étape, à savoir, enfin, il y a des étapes intermédiaires, mais la dernière étape, ça serait produire une image de l'intériorité la plus profonde, à savoir la pensée en acte, qui serait un pur signe indiciel d'une activité physique. Alors, ça va prendre encore longtemps, et c'est ce que nous verrons, notamment, lors de la prochaine leçon.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.